Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau et de François Genet.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à tous nos auditeurs qui se joignent à nous pour la première fois et ceux qui sont fidèles au poste tous les samedis et en balado, évidemment, à l'heure qui vous convient. Un Cinébrunch, c'est votre magazine hebdomadaire de cinéma dans lequel on parle de différents sujets qui touchent le cinéma, notamment des débats, des critiques de films principalement et plein d'autres discussions. Et on aura de très grosses discussions aujourd'hui, en fait, au moins une grosse discussion. On va se dire les vraies choses. Il n'y a pas mille façons d'annoncer ça.
Non.
Suite à la fermeture de tous les cinémas au Québec par demande du gouvernement provincial, oui. Et suite à la fermeture aussi de
plein de choses.
Pas mal tout, en fait. Pas mal tout. Et de tous les cinémas, pour rester dans le thème du cinéma, ou presque tous les cinémas au pays, à mon avis, il ne doit pas en rester beaucoup. Les grosses chaînes ont fermé. Guzzo,
Cinéplex ont fermé au pays.
C'est ça. Donc, ça ne va pas très bien pour l'industrie du cinéma, ça va pas très bien en général, parce qu'on peut dire ça aussi, économiquement et dans toutes les sphères de la santé et tout ça. Et donc, c'est pourquoi, je vous dis tout de suite, sans plus attendre, nous allons cesser la diffusion de Cinébrunch pour une période indéterminée, le temps qu'évidemment tout ça se replace et que le cinéma redevienne accessible. Hein?
Oui, tout à fait.
Parce que là, les films qui étaient prévus pour Pâques sont remis à octobre. Oui. On a une transformation là, complète du milieu cinématographique.
Ça va quand même faire weird d'avoir beaucoup de films de lapin en été. Je sais pas.
Mais je pense qu'ils vont faire, en fait, Pâques va être à l'automne cette année.
Je pense que oui. Hein? Peut-être. Je pense que c'est ça.
Ça va tout décaler, en fait. Les films de Noël vont sortir en juin.
Peut-être, peut-être.
Un film de Saint-Valentin aussi.
Dans plusieurs années, on va faire pourquoi les films de Père Noël sortent en plein mois de juin.
Ça va rester.
C'est ça va rester.
On verra. On a toute la chance, de discuter de ce sujet-là. Et avant d'aller plus loin, parce que notre première demi-heure va être consacrée à une grosse discussion justement sur tout ce qui touche le virus COVID-19 et l'industrie cinématographique et les films et tout ça. Et la deuxième demi-heure, on aura la chance d'avoir trois critiques de films qui sont très ad lib, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui.
François, tu as été revoir un vieux classique de 2014, 2015?
Oui, à peu près. Dans ce coin-là. Dans ces coins,
j'ai aimé ça, tu as commencé avec 1980, oui, quelque chose.
Non, 2013, quand même.
2013, c'est pas ça. Le film Her.
Que je n'avais pas encore vu. J'avais juste vu la bande-annonce. J'avais excessivement hâte de voir ce film-là.
Mais oui, c'est dans ton domaine. Tu devais
d'avoir excessivement hâte de voir des films.
Ah oui. Alors, et d'avoir vu
seulement la bande-annonce. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, c'est le meilleur moment d'aller voir ce film-là que j'avais depuis longtemps, que j'avais acheté depuis longtemps, et je me suis dit, pourquoi pas l'écouter là. Alors, le film Her, que je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en deuxième demi-heure.
Excellent. Et Mélina, toi, de ton côté, tu as vu un film encore plus vieux, c'est ça? Ou à peu près?
Là, 2013.
Ah, on est dans la même période.
Encore plus vieux, oui. C'est exactement la même année, en fait.
Mais non, c'est pas le même mois.
C'est ça.
Donc, Mélina, ton film... rappelle-moi le nom.
Le film s'appelle Admission.
Admission. Bon, voilà, un film sur les comédie universités, oui, collèges, en tout cas. Bon. Tout ça, plus tard dans l'émission. Et de mon côté, j'ai été voir un film beaucoup plus récent, mais j'ai regardé
2014.
Dans le confort de mon téléviseur. Non, 2020.
Ah, 2020, okay.
Oui, le tout dernier film, un des derniers films original Netflix mettant en vedette un acteur américain connu, soit dans ce cas-ci,
Adam Sandler.
Voilà. Oui. Donc, Uncut Gems, je vais vous parler de ça en début de deuxième demi-heure. Mais c'est le moment de discuter de cette situation, ma foi, qui est complètement inattendue. Inattendue. L'année passée, ça a été complètement inattendu. Avant toute chose, je dois vous dire, cette émission est enregistrée. Donc, le mercredi 18 mars, ce qui veut dire que ce qu'on va dire là est peut-être plus tout à fait exact au moment de la diffusion. Prenez ça en considération si jamais...
Ça change tellement vite, effectivement, on peut dire quelque chose qui... totalement
qui va être faux. En
trois jours, il peut se passer beaucoup de choses, surtout actuellement, à voir ce qui se passe.
Qu'en trois jours, depuis trois jours, les cinémas ont fermé, en fait, parce qu'ils ont fermé dimanche, on est mercredi, donc... on est samedi, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Non, effectivement, c'est assez particulier. Donc, Voilà, on va oublier les dates, là, ça devient trop mêlant.
C'est l'acrobatie de dates, là, c'est...
Trop mêlant, plutôt qu'aller avec notre période de nouvelles traditionnelles, on va se promener à travers les différents éléments, puis je pense qu'on va avoir des discussions fort intéressantes sur ce qui se passe au niveau du coronavirus et de l'industrie cinématographique et des films et de nos déceptions. Commençons sans plus attendre. Tiens, Mélina, j'ai envie de savoir de... Tu avais déjà un début de quelque chose que tu voulais nous parler.
Oui, parce que en fait, vous savez, il y a plusieurs personnes, entreprises, compagnies qui servent de ce moment-là aussi pour lancer des nouveaux trucs. Hein? Les gens restent créatifs et ils cherchent encore des façons d'innover. Donc là, Netflix a lancé l'application Netflix Party, qui est en fait une extension dans Google Chrome, qui permet aux gens d'écouter des choses sur Netflix ensemble. Donc, ça crée un groupe. Tu invites des gens se rejoindre au groupe avec un numéro unique. Wow. Et puis là, il y a un petit chat, une petite conversation de groupe.
Pour réagir pendant le film.
Ben oui, pour discuter les films.
Un peu comme les Facebook Live, ces choses-là. Dans le fond.
Exactement. Okay. Mais là, pour Netflix, et pas besoin de se synchroniser comme les gens faisaient, dans le fond, avant aujourd'hui, de s'appeler et dire « OK, on part là. »
En même temps.
OK, 3, 2, 1, go. Puis là.
Je sais pas, je connais personne qui a jamais fait ça, mais...
Non. Le nombre de bandes annonces que j'ai été écouté comme ça, Jim, tu pourrais pas croire.
Non, c'est ça. Mais je trouve ça super intéressant comme idée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont soit en quarantaine chez eux, mais aussi beaucoup de travailleurs, d'employés pour qui l'entreprise a choisi sagement de permettre le travail à distance pour s'assurer, premièrement, d'éviter la contamination d'autrui. Mais... Également, ça soulève tout un paquet de questions.
Tout à fait.
Mais ça crée le désavantage de peut-être le manque social qu'on retrouve quand on se présente au travail, tout ça. Et c'est un problème réel qui est calculable, qu'on peut compter. Et ce problème-là, il y a plein de gens qui essaient de trouver des solutions en proposant des choses par à distance avec des logiciels comme Skype, FaceTime,
WhatsApp,
toutes sortes d'applications qui permettent de se voir et de faire des conférences et de faire des choses comme ça. Maintenant, appliquer à regarder un film, c'est une bonne idée. Maintenant, moi, je soulève le point suivant. Moi, je parle pas pendant un film, normalement. Je vois pas pourquoi j'irais faire des commentaires.
Mais tu pourrais écrire. Mais ça dépend aussi du type de film. Ouais. En fait, ça dépend du type de film. Tu sais, au cinéma, je pense qu'on est d'accord que non, mais tu sais, si c'est un film
que... Si je parle, parce que le film est pas très bon. Là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, justement, tu peux partir un film que tu as vu 3 fois, 4 fois, là, l'écouter ensemble. Il y a quelque chose qui peut être intéressant aussi de revisiter des films qu'on a déjà vus.
Tu fais ça souvent, François.
De le voir ensemble.
Mais si tu faisais pas ça, tu pourrais écouter tous les films dont tu as vu la bande-annonce.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais il y a pas juste ça. Il y a pour les séries télé, en fait. Moi, je suis dans un groupe Facebook de Grey's Anatomy, puis quand l'épisode, je veux dire, les gens qui l'écoutent en live, il y a un chat, il y a une conversation.
Sur Twitter, ça sert à ça aussi.
Exactement, sur Reddit.
Ça devient un événement, comme si tu écoutes le Super Bowl, tu écoutes ça entre personnes, puis tu passes des commentaires.
Tu capotes ensemble, puis tu dis « Oh my God, je peux pas croire qu'ils ont fait ça », puis ça se fait déjà, en fait, de d'autres façons.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que tout le monde doit avoir un compte Netflix pour être capable d'utiliser ça? Est-ce qu'on sait que...
J'imagine, oui.
C'est pas juste une personne puis les autres.
Mais je sais pas si on peut le faire à travers un même compte Netflix. Par exemple, il y a des familles qui seraient
Mais je sais que c'est un URL.
Okay. Ça marche juste sur l'ordinateur, ça veut dire. Ça marche pas sur les applications.
Exact, pour l'instant. D'après moi, je veux dire, on s'entend que c'est probablement quelque chose sur lequel ils travaillaient depuis quelques temps.
Ils n'ont pas inventé ça en 30 secondes comme ça.
Non,
c'est
ça. Je pense qu'ils ont peut-être juste devancé peut-être la sortie. Peut-être justement, ils ont dit, c'est prêt pour Chrome, allons-y pour Chrome, puis tranquillement, on va y aller avec les autres pour amener des solutions maintenant aussi.
C'est une bonne idée, puis je veux dire, Netflix et les autres... je ne sais pas si on peut dire ça, télédiffuseurs sur demande, ou en tout cas, les autres plateformes de diffusion sur demande. Bon, ces plateformes-là, il n'y a pas de chiffre sorti au moment d'enregistrer ça, là, clairement. Je ne pense pas qu'ils vont s'en vanter non plus compte tenu de la situation actuelle, mais autant les salles de cinéma, ils n'existent plus en ce moment, elles sont toutes fermées, autant ces diffuseurs-là doivent avoir beaucoup de nouvelles inscriptions, ils doivent avoir une quantité assez phénoménale d'heures d'écoute, contrairement
à ça. Ça crée des problèmes même de bande passante. Il y a même eu des discussions du PDG de Netflix qui disait...
Il y en a qui veulent que, justement, j'avais vu ça passer, je pense que c'est en Europe, qui voulait essayer de dire peut-être qu'il faudrait que ça ne soit pas en HD de base, essayer de forcer les utilisateurs
essayer
de diminuer la qualité parce qu'effectivement, les gens se retrouvent en télétravail pour la majorité. Et après ça, on se dit les gens écoutent Netflix, les gens écoutent... utilisent tellement l'Internet qu'il y a tellement de monde sur Internet que les gens qui font du télétravail, des fois, ils arrivent peut-être plus autant. Puis, dans le fond, ça brime tout le monde parce que personne... On a tellement une demande pour Internet que, justement, est-ce qu'on va devoir arriver à dire, ben on va diminuer par quelconque façon la demande de Netflix? On va voir où on va s'en aller dans les prochains jours. Ouais. Ça change tellement, mais...
Je pense que Netflix est quand même déjà un peu plus solide pour faire face à ce genre de demande-là.
Oui, mais la bande passante générale des gens... Elle n'est pas prête à ça.
Non.
On a des heures où généralement les gens sont ailleurs. Ouais, ouais. Les gens
on prévoit des ressources en fonction de ça.
Exactement.
Là, ce n'est plus le cas. Ça, c'est un point. L'autre point que dont je voudrais parler par rapport à ça, c'est peut-être un peu plus réaliste pour les plus petites plateformes comme justement tout.tv, ces choses-là. Je pense que c'est des plateformes, et même peut-être Netflix puis les autres, c'est les plateformes où on a beaucoup ce qu'on appelle en anglais d'overbilling. On a beaucoup de surfacturation. Je sais pas trop comment on pourrait prononcer ça. Mais en gros, l'idée est que c'est comme les abonnements au gym, en fait.
On trouve à vendre beaucoup
plus d'abonnements que ce qu'on pense qu'il va avoir comme personne. De cette façon-là, comme les gens ne viennent pas tout systématiquement, on est capable de faire beaucoup plus d'argent et de vendre beaucoup plus de licences. Ce principe-là s'applique à ces plateformes.
Même dans les aéroports, les avions, ils font un peu ce genre de choses.
D'ailleurs, les gens n'aiment pas beaucoup ça.
Oui, tout à fait. Mais ce principe-là est un peu partout, effectivement. Mais comment ils vont s'en sortir?
C'est ça le problème.
Est-ce que ça va tenir le coup?
Ils doivent être déjà, à mon avis, en train d'acheter des serveurs puis d'organiser leur affaire parce que ça prend ça, là.
C'est clair. Ils savent que la demande va être là, autant pour le cinéma, pour les jeux vidéo. Les gens veulent jouer en ligne, se parler en ligne, écouter des films en ligne. Ils veulent tout faire ça. Donc, c'est pas juste Internet, c'est effectivement les serveurs de ces plateformes-là qui doivent être assez solide. Et c'est comme quelque chose qui est hors du commun. Puis en même temps, pendant ce temps-là, t'as peut-être moins de main-d'œuvre aussi parce que les gens travaillent à distance.
Les gens peuvent être malades aussi.
Les gens peuvent être malades.
C'est plus compliqué.
Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, des fois, les écoles sont fermées. Il faut qu'ils restent chez eux avec leur enfant. Des fois, ils peuvent pas tout le temps faire du télétravail. Fait il y a tout plein de complications qui peuvent arriver avec ça. Donc, est-ce que ces plateformes-là, on va avoir tellement de problèmes que les gens vont se tourner vers d'autres choses, vont se tourner vers les bons vieux DVD?
Ouvert Télé-Québec qui a changé sa programmation spécialement pour ça.
Oui, parlons justement de ça. Il y a plein d'initiatives, je pense, probablement vous avez des nouvelles là-dessus. Il y a beaucoup d'initiatives de toutes parts, en fait.
Oui, des changements de programmation.
Au niveau, tu parlais tout à l'heure de la bande passante, bien, il y a quand même il y a des distributeurs, des fournisseurs de services Internet qui ont aboli les limites des quotas, finalement, de bande passante. Ça, c'est fait pour justement aider les gens qui travaillent à la maison et tout ça.
Mais ça élargit pas la bande passante.
Ça
enlève les limites.
Ça enlève les limites. Donc, on ne paie pas d'extra. En fait, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les compagnies, mais il y en a certains gros joueurs qui l'ont fait.
Oui, mais il y a aussi, mettons, comme on disait, Télé-Québec qui a ramené la programmation de Ciné-Cadeau. Qui s'appelle Ciné-Molo en ce moment.
C'est drôle quand même.
On est pas dans le temps des fêtes.
OK, c'est quand même drôle. Ouais. Puis ça, c'est bien parce que là, il n'y a plus d'école. Donc, les enfants sont à la maison.
Exactement.
Donc, par conséquent, les parents aussi, en tout cas, partiellement au moins.
Ouais.
Et ça fait qu'évidemment, il faut occuper ces enfants-là.
Exact. Ça, c'est le premier changement de programmation qu'on va voir. Le deuxième, il n'est pas encore... On n'en sent pas encore tant les effets, mais c'est toutes les dramatiques dont les tournages sont arrêtés à partir de maintenant.
Oui.
Donc, on a annoncé aujourd'hui que District 31, il allait avoir 8 épisodes de moins pour la saison. Donc, ça va comme finir... On parlait des cliffhangers la semaine passée.
Oui.
Tout ça prend le bord. Ça l'arrête maintenant. Est-ce que les 8 prochains épisodes vont être à l'automne? On ne sait pas. Grey's Anatomy, il y a plein de plateaux de tournage qui sont arrêtés en ce moment, de production de films aussi. Donc ça va avoir un impact. Mais on va peut-être commencer à le voir parce qu'on est toujours un peu d'avance.
Oui, c'est toujours à l'avance. Oui.
Exactement.
Même pour les films, des fois, on est tout le temps un an d'avance, des fois 6 mois, un an. Donc, je pense que le problème va probablement survenir vers l'automne.
On va avoir des répercussions encore pour un petit bout de temps, de tout ça.
Ça se relèvera pas si vite que ça.
Puis je sais pas si vous l'avez écouté un peu, mais tout le monde en parle dimanche sans public.
Sans public, ouais.
C'est bizarre un peu aussi. Ouais. Donc, il y a des changements comme ça aussi, ça bouleverse vraiment.
Des émissions devant public qui ont été obligées d'annuler. La poule aux œufs d'or. Si t'as pas de participants, Non, mais tu fais un quiz, ça marche pas, là.
Ouais, juste une poule, c'est pas suffisant.
Oui.
Non, mais... Il y a ça, puis il y a aussi le fait que toutes les J'ai oublié mon idée complètement.
Mais on sentait dans tes yeux, là, les gens à la maison ne le voient pas, mais on voyait dans ses yeux que ça semblait être l'idée de la décennie. Mais malheureusement, des fois, ces idées-là se perdent. Hein.
C'est souvent le cas, en fait, avec moi.
Bon, il faut rester concentré, Jim.
Oui, mais c'est ça. Les productions sont arrêtées.
Oui.
Dans certains cas, mais les festivals aussi, c'était mon idée. Les festivals aussi, il y avait plein de festivals qui s'en venaient.
Oui, tout à fait.
Jusqu'au Festival de Cannes. Mm-hmm. Qui, je ne sais pas s'il y a eu des annonces par rapport au Festival de Cannes, mais clairement, ça n'aura pas lieu. Mm-hmm. À moins qu'une circonstance très, très inattendue survienne maintenant.
Le gala artiste a été annulé.
Les prix, c'est pas les Gémeaux, les quoi déjà, les Junos.
Les Junos, oui, effectivement. C'est vrai, je pense
beaucoup de choses ont été annulées et vont l'être. Mm-hmm. Parce que même si tout le monde était guéri en claquant des doigts, le système lui-même... C'est ça, la préparation, c'est extrêmement difficile de remettre ça en place. Donc, ça a aussi un impact. Là, les Oscars sont passés, là, mais pour se donner une idée, ça signifie que tous ces galas-là qui récompensent les films, les gens, ça signifie que tous les films qui étaient à l'affiche ou qui ont été à l'affiche récemment vont avoir des pertes financières importantes au niveau du box-office. C'est les clair. Pertes de chiffres, ça va nuire à la réputation du succès du film.
Ouais.
Tout ça, c'est des réels problèmes qu'on va pouvoir éventuellement chiffrer.
Ouais.
Et je voudrais pas être un gros producteur en ce moment, parce que ça va pas très bien.
C'est clair, mais est-ce que ces gros films-là vont ressortir plus tard quand ça va être un petit peu dissipé en disant « ça vaut la peine de ressortir ».
En même temps, il y a peut-être d'autres contrats qui vont... Les artistes, des fois, signent des contrats d'avance et là...
Exactement.
Ah non, c'est sûr. Puis moi, je pense à la cérémonie des Oscars de 2020 qui va être tenue début 2021 où on va peut-être avoir la moitié des films de ce qu'on a d'habitude pour faire une sélection puisque c'est les films qui ont été présentés en salle, à moins qu'on change les règles.
Oui, mais il va y avoir quand même des films qui étaient dus pour sortir cette année qui vont juste sortir beaucoup plus tard que prévu.
C'est ça. Mais l'instant, on va avoir les films de janvier, février, début mars.
Oui.
Puis ensuite,
ça va causer
un problème. Oh, oui, on va peut-être avoir une cérémonie des Oscars sur 4 mois de film.
Des gens vont décider de précipiter des sorties en disant « Hey, c'est peut-être notre chance, il va y avoir moins de candidats.
Ouais. »
On ne sait pas.
Aussi?
Encore
peut-être.
Là.
Je ne sais pas ça va être quoi les stratégies.
On ne sait pas.
On peut s'attendre à tout à ce niveau-là.
Exactement.
Sauf que...
La créativité peut être de la partie.
Mais en tout cas, c'est très risqué aussi parce qu'on sait qu'une date de sortie de film pour les grosses productions, en tout cas, c'est toujours une science. C'est toujours calculé en fonction d'un paquet de facteurs. Les sorties des autres gros films, des autres productions. Une espèce d'entente non écrite qui fait en sorte d'organiser ça sur l'année de façon à ne pas se nuire trop les uns les autres.
Ouais.
Et là, tout ça vient de prendre le bord complètement.
Exactement.
Donc, tout ce qui était prévu... C'est un échec. Donc, en tout cas, on a vu que les gouvernements allaient mettre des fonds pour aider différentes industries. Probablement qu'il y aura des fonds pour l'industrie cinématographique. Mais on peut quand même s'attendre à des gros changements, des compagnies qui vont fermer, des choses assez
intenses. Les petits joueurs vont avoir de la misère, des fois, peut-être à s'en sortir de tout ça.
Exactement.
Probablement. Ouais. Probablement.
La question qu'on pose toutes, c'est est-ce que Tom Brady a bien fait de se lancer dans la production cinématographique? Alors ça, on verra.
Et de quitter son équipe
en
même temps. C'est une
nouvelle qui est comme un peu passée...
Sous le radar.
Oui, définitivement. Fait. Moi,
je pense que toutes les nouvelles passent sous le radar en ce moment.
Oui, effectivement. C'est pas le bon moment pour sortir quelque chose. Mais puis c'est là qu'on se demande aussi comme question... On parlait de la programmation qui peut changer pour l'automne. Est-ce que justement, il va y avoir une modification des réflexes des gens si, par exemple, il n'y a plus de Netflix Original qui sortent pendant une certaine partie? Est-ce qu'ils vont vouloir encore plus? Est-ce qu'ils vont encore plus avoir une course vers les anciens, aller racheter
les vieilles productions? Mais tu vois, la MGM qui vend son stock,
exactement.
Ça risque de devenir très intéressant.
Peut-être monter
en même temps, économiquement parlant, c'est le pire moment pour faire une acquisition comme ça.
Exactement. Donc, mais en même temps, il faut sortir quelque chose parce que sinon, les gens vont dire « Ben, écoute, j'ai vu plein de trucs sur Netflix pendant le temps que c'est peut-être le moment où que les gens vont avoir vu le plus en disant « Bon, j'ai tout vu quasiment ce que je voulais voir sur Netflix. J'ai fait le tour. Il faut que tu me donnes un petit nanane, un petit bonbon. Parce que si j'ai pas quelque chose d'autre, ben là, on va peut-être voir une chute de désabonnements. »
Les gens vont peut-être se promener aussi entre les plateformes.
Tout à fait.
Mais d'autre côté... Il y a beaucoup de tournages qui continuent aussi quand même.
Il y en a aussi.
Là,
tout à fait. Il va falloir voir le nombre.
C'est ça, le nombre qui est arrêté.
Présentement à chiffrer puis à voir l'ampleur de tout ça aussi.
Ça sera peut-être l'occasion d'aller chercher des productions internationales qui normalement ne seraient pas diffusées ici.
C'est vrai.
Parce que c'est des films qui ont une qualité, mais qui n'ont pas juste simplement pour des raisons de de quantité de films achetés ou peu importe, n'ont jamais été cherchés. L'autre chose, ma peur à moi, c'est qu'on commence à produire des films de moins bonne qualité pour les sortir rapidement, qu'on commence à botcher, entre guillemets, des productions qu'on veut finir vite, vite, parce qu'on sait
avoir
que...
une quantité.
C'est ça.
Puis d'ici, dans à peu près 2 ans, on va avoir un nombre de films de pandémie qui va friser l'absurde, quasiment. Là. Les scénaristes sont chez eux en ce moment, ils n'ont rien à faire. Ils écrivent les scénarios.
C'est sûr que ça ouvre quelque chose. Bon, les films de zombies ont toujours été très populaires, là, parce qu'ils sont redevenus très populaires dans les dernières années. Mm-hmm. Mais là, je pense que, comme vous dites, là, le film de pandémie, qui est déjà populaire en tant que tel, mais moins répandu, va prendre énormément d'ampleur. Je m'attends à ce qu'il y ait des séries, des choses là-dessus. Puis justement, en fait, en parlant de séries, des choses là-dessus, Netflix a sorti son top 10. Ben, en fait, c'est pas tout à fait exact. Il y a toujours, on voit toujours, quand on se connecte sur Netflix maintenant, le top 10 des films dans notre pays. Donc, au Canada, dans notre cas. Et dans le top 10, au moment de regarder tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait notamment le film Contagion de 2011. C'est pas un film récent, là, mais le film Contagion avec Marion Cotillard et Matt Damon et la nouvelle série Pandemic qui sont dans le top 10. Mm-hmm. On va se dire, il y a des choses, là. Il y a un lien, là.
C'est
pas anodin.
Les gens achètent des jeux de société, le jeu pandémie parce que c'est pandémie.
Oui. Mais moi, je suis vraiment curieux de vous entendre avec par rapport à ça, là, mais quel genre de film vous avez le goût d'écouter quand vous êtes dans une situation comme ça? Moi, je suis vraiment curieux.
Définitivement pas quelque chose qui se rapporte à la situation.
Ben, visiblement, il y a des gens que oui.
Mais des gens, oui, définitivement.
Mais est-ce que les gens écoutent ça? Parce que les gens, je pense pas, écoutent ça pour se libérer puis pour penser à d'autres choses. Je pense que c'est quasiment pour dire, je vais prendre des notes, je vais regarder.
Tu penses que c'est plus de...
Je sais pas, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pour ça, pour voir des comportements puis dire, ah, pas bête, pas bête, je sais pas. J'aurais pas
vu cet angle-là, mais en tout cas, c'est peut-être pas une très bonne idée. Peut-être la série Pandemic, là, mais je sais pas si jusqu'où Contagion puis
Blindness. Moi, ça dépend, je pense, de chaque personnalité et des personnes, parce que moi, je sais que moi, personnellement, j'irais pas faire une écoute en rafale de films et de séries sur des pandémies, mais ça, c'est moi. Mais je suis convaincue que, je sais pas, vous deux, comment vous êtes dans ce genre-là.
Ben, je sais pas. Si,
on sait que toi, t'écoutes les bandes-annonces.
Oui, c'est ça. Moi, j'écoute toutes les bandes-annonces. Je ne néglige aucune. J'ai beaucoup de variété dans mes bandes-annonces. Mais non, je sais pas. Je trouve ça bizarre. C'est comme si tu dis, ah, il y a eu un attentat quelque part. Moi, écouter un film d'attentat. Mm-hmm. Je trouve ça un peu weird comme réflexe. Fait que c'est pour ça que j'essayais de trouver. Pourquoi?
Tu vois, quand on dit le film d'attentat, on dirait que ça n'a comme aucun sens de faire ça.
Exactement.
Mais pourtant, avec la pandémie, on dirait que ça passe mieux.
Mais on dirait que la pandémie, c'est pas un one-shot deal, entre guillemets, c'est comme quelque chose qui s'étend. Donc, on veut voir jusqu'où ça pourrait aller, comment on pourrait se préparer. Je sais pas s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait rentrer en ligne de compte.
T'as peut-être raison. C'est peut-être vraiment comme un objectif didactique ou éducatif qui est caché derrière ça.
Ouais, mais sans le savoir, peut-être même. En disant juste, ah ouais, ça pourrait aller jusque-là, tu sais. On pourrait se rendre jusque-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que j'ai acheté assez de canettes de est-ce que j'ai acheté assez
de rouleaux de papier toilette?
De rouleaux de papier toilette ou de maïs en conserve pour être capable de survivre, tu sais. Je sais pas. Peut-être.
C'est peut-être une façon aussi de vivre la crise en accéléré, d'arriver tout de suite à la fin du film,
Ça finit pas toujours bien, ces films-là. Hein. Mais peut-être que c'est ça. Moi, je suis curieux. Moi, je vous avoue que je ne suis pas nécessairement représentatif, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce qu'on appelle les « feel-good movies », les films qui rendent joyeux, qui font sentir bien. Et je pense d'ailleurs que Netflix a sorti un bon paquet de films de ce genre-là récemment. Mais je sais pas. Je pense que ça revient au même quand on est triste. Est-ce qu'on écoute de la musique joyeuse ou de la musique triste? Il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui écoutent la musique qui vont avec leur mood. Il y a des gens qui écoutent de la musique qui essaient de les ressortir de leur mood. Ouais. C'est deux façons de parler. Moi, je suis plus de la catégorie qui va généralement avec le mood. Mais pourtant, dans les films, j'ai pas tant envie de voir des films de pandémie en ce moment.
Oui, je suis comme toi.
Qu'on entend déjà assez souvent parler dans toutes les directions pour pas, dans mon divertissement, me donner ça. Maintenant, je dis pas que j'en écouterai pas. Là, s'il y en a des bons qui sortent, je vais peut-être vouloir les voir. Mais ça devient pas comme un besoin vital, profond. Ouais. En tout cas.
Je suis un petit peu pareil que toi, Jim, là-dessus. J'ai pas ce besoin-là. Puis ça peut arriver, mais après ça, c'est quand même... Mais il n'y en a pas une tonne non plus hein, de films de pandémie. Fait que je pense aussi que c'est l'effet boule de neige aussi, peut-être. Le côté effet de papier de toilette, là, comme on a vu ces temps-ci. C'est le côté de dire, ah ben tout le monde a vu ce film-là, tout le monde parle de ce film-là. C'est le film, ben écoute, je vais l'écouter. J'ai écouté tellement de trucs sur Netflix, je vais bien finir par l'écouter aussi. Et il y a un effet boule de neige aussi, peut-être, là-dessus, de côté de dire, ben... Tout le monde l'écoute, on parle de ça. À Job, on parle de ça aussi. On a ou mes amis, on parlait de ça.
Et c'est sur le top 10 quand je rentre sur le
c'est Netflix. Ça. À partir du moment où ça rentre dans le top 10, ben là, après ça, je pense
que
c'est...
Ah oui, ben là, t'as une visibilité qui fait que le film, de toute façon, va prendre de l'intérêt.
Exactement.
Puis c'est pas tout le monde non plus qui va aller voir que c'est 2011. Là. C'est, les gens vont cliquer dessus parce que, tiens, c'est curieux. Caisse.
Tout à fait.
Mais, en tout cas, je sais pas où tout ça va nous mener, mais de toute évidence, on va avoir des développements majeur dans les prochaines semaines.
Tout à fait. Mais faut essayer de voir aussi le côté positif de ça, entre guillemets, même si c'est effectivement difficile à voir. Il y a quand même des compagnies ou des productions, des producteurs, des fois, qui essayent de dire, bon, ben prenons la balle au bon. On a parlé un petit peu de Télé-Québec qui changeait la programmation. Essayer de dire, bon, ben essayons de prendre ça puis essayer de changer ça pour du positif pour notre compagnie, par exemple. Justement, l'ONF a dit qu'il allait mettre plein de contenu, plus de 4000 titres qui vont être accessibles gratuitement sur l'ONF.ca. Donc, avec des trucs pour toute la famille aussi. Donc, essayer d'avoir une visibilité. J'ai vu beaucoup de monde aussi mettre des courts-métrages, des longs-métrages gratuitement.
Les festivals qui se mettent, le Festival Regard, qui est en plein festival et qui ont arrêté. Ils ont mis leur programmation, certains des cours sur
Facebook.
Donc,
aller chercher sur Facebook, des fois, il y a des perles à aller voir. Oui, il y a des Netflix, oui, c'est intéressant, mais il y a plein de petites productions, des fois intéressantes, qui sont difficiles à regarder, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de place.
Inaccessible
dans ce sens-là, effectivement. Et là, ils sont mis, des fois, pour une courte période de temps sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux ou sur leur site web. Donc, allez voir ça. Partez à la recherche si vous n'avez rien à faire.
Ben oui, parce qu'ils vont en avoir du contenu. Ils vont en avoir. Masse. Le but, c'est d'occuper les gens qui sont coincés chez eux.
Exactement.
Ça commence. On envoie des annonces de contenu qui est maintenant rendu accessible à tout le monde, comme Louis Morissette a dit, notamment la saison 2 de Plan B et d'autres séries comme Hubert et Fanny, Trop, Marie-Fille, Papa et Pic, qui sont maintenant disponibles gratuitement sur Tout.tv, qui était avant sur l'Extra, qui ont rendu disponible. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui... comme tu dis, prennent la balle au bon, ils s'adaptent à ça. Et je me demande quand même, ces gens-là, bon, j'espère qu'ils font ça de la maison.
On espère, on se croise les doigts. Mais on espère justement, c'est intéressant de dire, ben écoute, tant qu'à ça, ouvrons nos horizons, écoutons des choses qu'on n'aurait peut-être pas écouter dans temps normal parce que c'est payant.
Des choses qu'on a le temps.
C'est le moment.
On n'a plus de déplacement. La plupart des gens n'ont plus de déplacement à faire.
Donc même quand tu fais du télétravail,
tu gagnes ton
temps de transport. Donc, en partant, puis veux pas la fin de semaine, on aime sortir, on aime aller prendre des marches, tout ça, ben là, on peut plus. Donc, c'est ça. Hein? Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est une fort intéressante discussion, mais c'est déjà la fin de cette première demi-heure de Cinébrunch. De retour à Cinébrunch et dans cette émission un peu spéciale, on vous présente en rafale donc trois critiques de films, dont un récent film Netflix duquel je vais vous parler tout de suite. Le film Uncut Gems, une production en fait américaine, originale Netflix des frères Safdie, qui nous avait donné le film Good Time en 2017. Donc le film Uncut Gems qui met en vedette Adam Sandler, Kevin Garnett, Idina Menzel et Julia Fox. Et je vois dans les yeux de François, grand amateur de basketball, qui a entendu le nom de Kevin Garnett. Eh bien, il saura plus tard si c'est le même ou pas, Kevin Garnett. On va voir. Donc, Adam Sandler, dans ce film, incarne un incroyable personnage, celui de Howard Ratner, un joaillier et commerçant de bijoux new-yorkais d'origine juive. Le gars, il est obsédé par le gambling, l'argent, les bijoux. Il fait du commerce avec des gens plus ou moins clairs et a la grande tendance à miser tous ses avoirs sur une partie de basketball, sur un coup de tête. Tellement qu'il a des créanciers un peu mafieux qui sont tout le temps après lui.
Mais voyons donc, pour un coup de tête, ça aurait été plus un match de soccer.
Oui, effectivement. Très drôle, François.
Merci.
Donc, un jour qu'il met la main sur une opale très rare venant d'Éthiopie, il accepte de la prêter à un client de sa boutique qui est accessoirement un joueur de basketball professionnel, l'athlète Kevin Garnett, qui joue son propre rôle en tant que basketballeur professionnel de l'équipe de Boston. Et son personnage devient superstitieusement convaincu que l'opale a des pouvoirs magiques qui lui confèrent la victoire assurée dans ses matchs. Ce film-là est complètement insensé. Je vous laisse écouter la bande-annonce.
Je donne les Celtics gagnants à la fin, mais aussi à la mi-temps. En plus, je vais prendre les points au tir et les rebonds de Garnett. Qu'est-ce que tu sais ?
Je suis au courant de rien, je le sens, c'est tout.
C'est le pari le plus débile qu'on ait jamais fait.
Eh ben, on verra. On verra, Gary.
C'est quoi ça ?
C'est moi qui ai lancé le truc.
Non, t'es sérieux ?
Tu dépenses mon argent partout à New York et tu fais des paris avec.
Je commence à avoir de sérieux doutes.
Attends, t'es vraiment sérieux ?
C'est vraiment trop tard. Howard, qu'est-ce que t'as foutu de son fric ?
Howard, t'as mon fric ?
Howard !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Et oui, donc, qu'est-ce qu'il y a? Ce film-là est vraiment incroyable. Le film, donc, Uncut Gems, qui porte plutôt bien son nom, parce qu'on parle d'une espèce de d'opale qui n'a pas été découpée, n'a pas été coupée parce que, évidemment, c'est un peu rare, là, j'entrerai pas dans les détails. De toute façon, si vous voyez le film, vous allez comprendre que c'est quelque chose d'assez unique. Je vous ai déjà résumé un peu comment fonctionne le film. D'entrée de jeu, là, on peut dire, les gens qui me connaissent, qu'Adam Sandler, c'est pas mon acteur préféré, là, c'est plutôt l'inverse, il y a quelque chose.
Ouais.
Je veux vous lire je vais reprendre cette phrase-là, ça veut absolument rien dire. Donc, l'intrigue que je vous ai racontée, là, c'est réellement ça, le film. Maintenant, ça ne joue pas vraiment dans l'histoire, ça joue plutôt dans les personnages, dans les liens entre les personnages. Okay. Et le film est vraiment étrange. Là.
Parce que c'est assez simple. On a déjà vu ça un peu dans d'autres films.
On a vu ça mille fois, le côté superstitieux. Puis tout ça. Comme le basket spatial, je pense que c'est un peu comme ça. En tout cas, il y en a pas mal de films de ce genre-là. Maintenant, là, on est complètement ailleurs. Je vais parler des acteurs. Là. Les gens qui me connaissent le savent, je viens de le dire. Là, Adam Sandler, ça fait partie de mes 5 pires acteurs populaires de tous les temps. Là.
Je pense qu'il était d'ailleurs dans mon top 5 des pires acteurs.
Oh, oui. Définitivement. J'haïs le jeu de ce gars-là. Je suis pas capable. J'évite tous ses films. Mais
je suis quand même d'accord avec toi là-dessus.
Tu sais, il est pas bon, cet acteur-là. Mais est-ce que c'est lui qui est pas bon ou c'est les scénarios et le contenu qu'on lui donne qui n'est pas bon? Ben, je vais vous lire une citation de Rotten Tomatoes par rapport au film présent, donc Uncut Gems. On voit Adam Sandler remains a formidable dramatic actor when given the right material. Donc Adam Sandler reste un formidable acteur dramatique quand on lui donne le bon matériel. Et c'est exactement ça qui se passe. Mais il était super bon dans ce film-là. J'ai rarement vu. En fait, j'ai jamais vu Adam Sandler aussi bien jouer, mais j'ai rarement vu un aussi bon jeu d'acteur pour un personnage de ce genre-là. Donc, ça dépasse complètement mes attentes. Ça dépasse complètement. Il jouait aussi bien qu'un... Là, juste pour mal faire, j'ai pas de nom qui me vienne, mais que tu sais, De Niro ou un truc comme ça. Dans des rôles un peu weird, des fois, il y en a. Mais c'était ça.
Okay,
c'était exactement ça. C'était clean, c'était propre.
Et là, peut-être que c'est le réalisateur donc qui demande aussi d'avoir le côté Adam Sandler qu'on est habitué d'avoir, puis dans d'autres films, dans les autres films.
Probablement,
aussi,
puis on le voit dans des petites comédies
exactement.
Un peu cheap, tout ça.
Ouais, c'est ça.
Mais là, c'est pas vraiment une comédie. Je dis pas qu'il y a pas des moments drôles, mais c'est pas une comédie. À la limite, une comédie dramatique. Je pense qu'on pourrait s'entendre pour ça. Bon, en tout cas, vraiment là, il faudrait qu'il arrête de faire des comédies. Il est plus drôle dans les drames. C'est vraiment exceptionnel. Pas de farce, là. Je me sens obligé de le retirer de mon top 5 des pires acteurs à cause de ça.
Ben voyons
Parce que là, il vient de me montrer qu'il est un meilleur acteur que bien des acteurs.
Fait que finalement, il n'y a juste pas de choix pour choisir des scénarios. Il n'y a pas de goût.
En tout cas, il a signé... Son agent, là.
C'est ça. Je sais qu'il a signé avec Netflix parce qu'on l'a vu dans quelques films sur Netflix dans les dernières années. Il était vraiment pas tout bon, ces films-là. Mais là, on est vraiment ailleurs. Je vous dis, là, pas de farce, il faut voir ce film-là. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Bon, mais c'est ça. Au niveau du film comme tel, c'est tellement pas mon genre de film. En plus, hein, on va se le dire, là, du basketball, des bijoux, Adam Sandler, tout est là pour pas m'intéresser.
C'est pourtant, vrai que c'est un mauvais
début.
J'ai
quand même décidé de l'écouter, de le regarder, parce que, bon, c'est un film Netflix récent, et en tout cas, je l'ai essayé. J'ai été scotché tout le long du film. Il n'y a pas une seconde de répit dans ce film-là. Ça n'arrête pas une minute. Wow. À un moment donné, je me pensais dans Scarface en moins violent.
Ben
on est
ben voyons
réellement, là, je vous dis, là, c'est un hit, là, ce film-là. C'est vraiment pas rien. Ce film-là risque de gagner des prix, à mon avis. Là.
Oh, ben, quand même.
Si jamais il y a un festival qui donne des prix, là, ouais, on ouais. Ça risque d'être par Internet. Là. Mais c'est un film qui pourrait gagner des prix, à mon avis.
Wow.
Maintenant, note au passage. Bon, les réalisateurs Benjamin et Joshua Safdie, les frères Safdie finalement, ont été élevés à New York et Queens, mais sont d'origine juive mélangée, séfarades et juifs syriens. Je ne suis pas sûr que je prononce ça comme il faut, mais en tout cas, c'est intéressant parce que l'origine juive de Howard Ratner dans le film, parce qu'il est juif, vient un petit peu rappeler ça. Et il y a des moments vraiment intéressants de la culture juive qu'on a accès à voir dans ce film-là, qu'on n'a normalement pas la chance de voir dans un film. C'est des moments de la vie moderne, disons, juive. Là, peut-être pas les juifs assidiques qu'on a plus tendance à voir dans des gros drames, dans des films comme ça. Mais dans ce cas-ci, on est dans quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus léger. Et c'était intéressant de voir cette culture-là dans un cadre qui ne les vise pas vraiment, dans un cadre qui est comme secondaire. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Maintenant, particularité du film au niveau des frères Safdie, musique électronique qui n'est pas sans nous faire penser à Stranger Things, avec un petit peu de rap mélangé à ça. Là. Donc, parfois, assez intéressant. Aussi, le fait, en fait, parce que tout est au niveau de la musique là, dans le ton du film, c'est qu'il y a constamment de la musique en arrière-plan. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux moments où il n'y en a pas, puis encore là, je ne suis même pas prêt à le dire. Je ne me souviens pas d'un moment où il n'y avait pas de musique dans le film.
Okay,
il y a toujours une trame sonore de fond musicale, qui n'est pas nécessairement juste des bruits, des effets.
Ouais, ouais.
C'est musical, c'est généralement assez minimaliste. Parfois, là, on tombe dans la musique un peu plus de gangster, là, un peu plus de rue. Mais en général, il y a une musique de fond constante. Et ça crée une autre sorte d'ambiance. Parce qu'on ne va pas mettre nécessairement la musique qu'on mettrait avec une ambiance. Et c'est là que c'est intéressant au niveau analytique. Parce qu'ils s'amusent beaucoup à aller mettre une musique qui change complètement l'ambiance, le mood de la scène. Alors que c'est pas ça qui se passe.
Mm-hmm.
Donc, on pourrait voir, par exemple, Adam Sandler dans un moment relativement dramatique ou de combat, un truc comme ça, avec une musique qui n'est pas nécessairement la musique typique qu'on met avec un combat. Il n'y a pas vraiment de combat, là. Il y a quelques altercations dans le film, mais c'est pas un film... Dans ce film-là, il n'y a pas énormément de violence physique, il y en a un peu, là, mais c'est beaucoup de la violence verbale.
Okay.
Donc, ça se coupe la parole tout le temps. C'est incroyable.
Ça s'insulte.
Ça crie, ça se coupe. Mais c'est comme ça tout le long. Puis lui, il est complètement omnubilé par son propre existence, ce gars-là, par l'argent, par les bijoux, par les choses. En tout cas, c'est vraiment spécial comme personnage. Puis moi, honnêtement, là, ce film-là... tension perpétuelle dans le film. Pas une grosse tension, mais une tension qui ne lâche pas. Ça m'énervait un peu avec la musique tout le temps, mais à un moment donné, on finit par s'y faire. Puis je reconnais que ça fait vivre d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de voir.
Mm-hmm.
Donc voilà, je vais vous laisser du temps pour vos films. Très, très bon film. Uncut Gems sur Netflix exclusivement. Je donne un 8.5 sur 10 à ce film-là. Et c'est probablement ma meilleure note pour un film avec Adam Sandler.
Ben, définitivement.
C'est ma meilleure note pour un film avec Adam Sandler.
Ben, c'est bien que vous vous êtes réconciliés. Je suis contente.
Oui, mais je vais suivre cet acteur-là maintenant que j'ai vu qu'il était capable de faire quelque chose. Mais je pense surtout que l'industrie au complet
prendre des notes.
Va sans doute aller le chercher pour des films différents. Parce que là, il vient de prouver que c'est pas un acteur de comédie boboche, d'ado.
Mais il l'avait quand même prouvé un peu dans Click. Moi, Click, c'est le seul film. C'est lui qui était dans Click, le film. Oui. Moi, c'était le seul film où où je l'ai trouvé bon. Mais...
Je l'ai pas vu, tu vois. Ouais. Peut-être que j'ai.
Ça sera sur ta liste.
Je verrai. Ben, peut-être. Mais très loin sur ma liste. Bon, alors voilà. Merci beaucoup. C'était ma critique. On vous rejoint dans quelques instants.
Mm-hmm.
François, t'es à un mètre de moi et oui. Tu nous présentes une critique d'un film qui date, hein, disons ça.
2013, quand oui. Même. Mm-hmm. Hein, quand même.
Moi, je respecte ça, François.
Oui, c'est une belle année.
donc, l'année film, de ma naissance.
Non, quand même.
Quand même pas. Hein. Le film Her. Le film oui. Her, tout à fait. Film qui est marqué drame slash film d'amour. C'est quand même intéressant comme catégorie. C'est mm-hmm. plutôt rare qu'on marque ça. En fait, oui.
Drame donc, romantique.
Oui, c'est, oui, tout à fait. Au oui. Canada, il était quand même sorti 10 janvier 2014. Donc,
Tu pars tard.
J'ai 2013, mais bon, ça bon. Dépend où, hein, oui, évidemment. Oui. Approximativement. Donc, petit synopsis rapide, quand même, de la chose. En 2025, à Los Angeles, Théodore travaille pour un site web comme écrivain public, rédigeant des lettres pour des familles, des amoureuses, des gens comme ça, pour plein de personnes.
Comme un service de
oui, un service qui offre pour
les
écrire
gens qui
des
pas
lettres.
Écrire leurs propres lettres.
Oui, c'est ça. Okay. Il écrit des lettres, donc je t'ai rencontré il y a 15 ans, je suis tombé en amour avec toi, des choses comme ça, mais au final, c'est pas lui, là, c'est quelqu'un d'autre.
C'est un peu aussi Renaud de Bergerac.
oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt un an, mais ça ne décide pas vraiment encore à signer le papier de divorce. Et là, il est un petit peu en dépression et il installe un nouveau système d'exploitation, le OS1, auquel il donne une voix féminine. Et là, que va-t-il se passer? En fait, là, bon, évidemment, il y a une petite histoire avec l'intelligence artificielle là-dedans. Film de Spike Jones. C'est un film qui avait fait quand même beaucoup jaser. Il y a des gros acteurs là-dedans. La voix est faite par Scarlett Johansson, mm-hmm. okay. donc on la voit pas, mais on l'entend. Il y a Joaquin Phoenix qui est là, que moi j'étais comme ah,
ça
oui,
doit être
c'est vrai.
Un film de début.
C'est déjà. Lui qui faisait ben
non,
ça.
Il fait du cinéma depuis qu'il est tout jeune.
Oui. Ah ouais?
Ben oui, ben oui.
Mais c'est que des fois on réalise pas que c'est lui nécessairement. Là. Des fois oui? on s'en souvient pas nécessairement, comme toi, Jim.
Non, moi j'ai aucun souvenir de ce gars-là avant les derniers films là. Faut donc. Dire que j'ai pas souvenir de grand chose, donc j'imagine que c'est pour ça.
Ça, oui. ça peut faire partie de la confusion aussi. Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, donc une distribution assez intéressante. Donc ce film-là, je trouvais ça intéressant de le regarder présentement parce que, ben évidemment, on est tous, ben on parle de quarantaine, on parle d'être loin des gens. Je trouvais ça intéressant comme thème de dire. Là, lui, il est en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas là, au final. Il parle avec une intelligence artificielle. Ils sont en train de parler. Ils créent une relation avec quelqu'un qui n'est pas là. Et dans le fond, c'est un petit peu comme si on parlait avec des gens qui ne sont pas là, là. C'est comme si on parlait au téléphone avec... Tu sais, oui, là-dedans, c'est une intelligence artificielle. Mais présentement, on pourrait se dire que c'est comme si on parlait avec des gens par téléphone ou puis qu'on ne pouvait plus voir parce qu'on est en quarantaine ou parce qu'on est isolés mm-hmm. les uns des autres. Donc, je trouvais intéressant quand même de regarder ça en disant... Et là, dans le fond, je suis un petit peu comme la personne qui écoute les films de pandémie là, dans ce côté-là. j'ai un petit peu de dire tantôt, je disais comme quoi que je ne voulais pas écouter des films de pandémie parce qu'on était là-dedans. Mais là, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant de dire comment... Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment on peut... Il y a plein de réflexions qui sortent de ce film-là. Puis en temps normal, bon, on se dit, bon, ben, c'est l'intelligence artificielle, c'est marqué 2025, on s'approche quand même cruellement de
quand
2025.
Même, on est plus
pour
proche
avoir,
de là que le temps que le film était proche d'aujourd'hui.
Oui.
Oui, j'ai un petit peu saigné du nez, mais je pense que c'est véridique.
Non, moi j'ai compris.
Oui, oui.
Ça veut dire que c'est vraiment la mémoire qui ne marche pas chez moi, parce que le reste, ça fonctionne.
Okay. Le reste fonctionne. oui, bien effectivement, c'est... Donc, 2025 arrive assez vite, puis je pense qu'on... Des fois, on voit ça comme étant des films de science-fiction, puis on dit, bon, on a de la misère des fois à dire, bon, on se sent proche de ça, on a de la misère à se sentir proche des films de science-fiction des fois, parce qu'on dit, bon, ben c'est intéressant comme feeling, mais après ça, est-ce qu'on est capable d'avoir une pensée de dire « Ah, oh, j'approfondis quelque chose que je vais pouvoir changer quelque chose dans ma vie ou je trouve ça intéressant. » Des fois, peut-être que j'ai de la misère, en tout cas personnellement, à faire ce lien-là avec des films de science-fiction parce que c'est trop loin de moi.
Oui, là, mais... c'est tout à côté. Là. Parce oui. qu'on s'entend que l'intelligence artificielle est déjà, existe déjà
oui,
à
mais,
petite échelle.
Mais d'avoir une conversation comme on a, toi puis moi, avec une intelligence artificielle, présentement, on n'a pas ça. On n'est pas capable d'avoir cette flexibilité-là aussi intense qu'on voit dans le film. Et donc là, je trouvais intéressant de revoir de voir ce film-là, ou de revoir pour les gens qui voudraient le réécouter, parce que moi, je ne l'avais pas encore vu, mais de voir ce film-là sous l'angle de dire, je m'imagine un peu, pendant le film, que l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qu'au final est à l'extérieur et loin de moi et sur un autre continent et ailleurs, puis je ne peux pas voir cette personne-là parce qu'on est isolé.
Okay.
Et je trouvais ça assez particulier de voir ça et de penser à ce film-là de cette façon-là. Je trouve que ça m'a apporté plein de réflexions, de dire justement « OK, mais là, les gens qui sont réellement proches de toi, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut réellement avoir à quel point, à un moment donné, on a besoin? » On disait justement, on a ce besoin-là de se rencontrer, tu sais, avec le Netflix qu'on parlait en première demi-heure, le côté, on a ce besoin-là de se rencontrer, de parler. Est-ce que le côté physique, à un moment donné, on a besoin de voir quelqu'un physiquement, de tenir la main à quelqu'un, d'être proche de quelqu'un? Tu sais, on veut tout être présentement à un mètre de distance, même avec les gens qu'on côtoie. Il y a ce côté-là qu'on voit dans le film, le côté de dire on veut avoir une présence physique. L'intelligence artificielle trouve qu'il n'y en a pas de présence physique, justement. Elle est consciente de ça, elle est lucide de ça, l'intelligence artificielle, et aimerait ça, avoir un corps, avoir une présence physique.
Parce qu'elle devient consciente. Donc, c'est toujours été ça, la courbe de
dans les films, c'est toujours ça, le côté...
À un moment donné, il y a la prise de conscience.
Il y a tout l'apprentissage.
Je ne sais pas si ça va vraiment arriver, mais en tout cas, mais on suppose que ça pourrait.
Oui.
Et donc, c'est ça qui fait qu'un film, en fait, sinon...
C'est un documentaire. Hein? Mais donc, effectivement, c'est cette courbe-là qu'à un moment donné, on dit « Ah ben oui, c'est vrai, on essaye de trouver des façons pour dire... Je vais essayer de me trouver un corps pour essayer de parce qu'on a ce besoin-là. » Et puis je trouvais ça intéressant, présentement, d'écouter ce film-là sous cet angle-là. Puis je trouve que ça amène tout plein de questionnements. Puis peut-être que je l'ai plus apprécié que si je l'avais écouté il y a 6 mois, avec cette expérience-là qu'on vit présentement, de dire on est loin de tout le monde. Puis là, j'avais l'impression de vraiment être dans le film, puis de vraiment rentrer dans le film à 100%. Comparativement aux films de science-fiction, généralement d'intelligence artificielle, j'aime ça souvent, ce genre de films-là. Bon, j'aime l'informatique, donc souvent j'aime ça, ces films-là, mais des fois, justement, t'as quand même, t'apprécies le film, mais t'as une petite distance avec le film. Là, on dirait qu'il n'y avait plus cette distance-là avec le film. Puis peut-être que ça vient répondre avec le côté pourquoi on veut écouter des films de pandémie. Peut-être que justement, on est capable de plus rentrer dans ces films-là présentement.
Probablement, en fait.
Peut-être aussi que c'est une expérience intéressante de regarder des films comme ça présentement pour dire justement, ben, je suis capable de voir ça puis pas dire ah, c'est trop gros ou ça marche pas. Ben là, tu dis ah, ben, c'est pas si fou que ça finalement. C'est plus proche qu'on peut le penser. Donc, pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était un film assez fascinant. Là, donner une note, je trouve ça assez spécial.
Mais c'est ton appréciation.
Sur un vieux film. Je trouve que présentement, je donne un 8. La façon que je l'ai écouté, pour moi, c'est un 8. C'est un film. Après ça, évidemment, il y avait le contexte qui était là. Je ne sais pas si ça aurait été une autre note à un autre moment, mais présentement, je trouve que c'est un film qui est intéressant à regarder. Puis si vous vous demandez quoi regarder, je pense que c'est un film qui marche bien présentement. Puis même si vous l'avez déjà regardé, faites le test. Je pense que ça vaut la peine de réécouter ce genre de film-là pour dire « Hey, on peut-tu essayer de regarder le film différemment pour voir si ça ne peut pas nous avoir amené une autre profondeur, une autre couche à ce genre de film-là? »
C'est intéressant.
Je trouve ça assez intéressant. Ouais.
Puis on risque de voir à partir d'aujourd'hui tous ces films-là d'un autre œil aussi.
Tout à fait. Une fois qu'on a vécu
mais
ça...
Mais pas ces films-là, pas ces films-là, mais je veux dire les films qui traitent de choses qui vont être proches de la pandémie ou de la distanciation sociale.
Mais quand tu sais pas non plus combien de temps ça va durer, est-ce que ça va être une semaine, 2 semaines, 4 mois, tu sais, à un moment donné, tu viens qu'à dire « OK, mais il y a vraiment un réel enjeu sur le côté physique, le côté les relations avec les gens. » Puis je pense que ça amène une belle réflexion, puis c'est intéressant dans ces moments-ci.
Mais merci beaucoup, François.
Merci.
Et Mélina, tu as aussi fait un tour sur Netflix
oui,
cette semaine.
Oui, exactement. Mais moi, je fais partie des gens que, quand il y a des choses comme ça, des fois, j'ai besoin de me sortir de ça et d'écouter des petites rom-coms, des petites comédies romantiques.
Oh, des rom-coms!
Ben, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon.
C'est sérieux, là?
Oh, ouais. Oui.
Première fois que j'entends ça. Ah.
Ben, les bandes annonces, ils disent toujours ça, mais bon, après ça, oui, ben oui, les rom-coms.
Ben, comme les sitcoms.
Oui, les sitcoms, je connaissais, mais les rom-coms.
Bon, c'est bon, comme une situation, exactement.
Oui, ça, j'avais compris, mais OK, bon, c'est bon, peu importe. Ben,
bon, en tout cas, du moins, j'ai écouté une petite comédie romantique. Vous savez, il y en a plusieurs de ce... C'est ça, un style qui est quand même... qui
populaire.
Oui, oui, hein, qui a pas donné sa place. Qui a donné, du moins.
Oui, une belle expression à utiliser là, mais c'est pas grave.
Fait que j'ai écouté ce film-là, ça s'appelle Admission. C'est un film dirigé, réalisé et scénarisé par Paul Waits et sa mère vedette Tina Fey et Paul Rudd, ainsi que Michael Sheen et Lily Tomlin. Donc, le film, un peu, c'est quoi? C'est la madame, en fait, qui est jouée par Tina Fey. Elle est responsable des admissions à Princeton. Vous savez, une célèbre université la Ivy League, là, la ligue des universités qui ont du lierre sur leur bâtiment.
Oui.
Donc, elle est responsable...
L'ivoire, non?
Non, non, c'est le lierre. C'est que c'est des très, très vieilles universités. Donc, des bâtiments, ils ont commencé à être recouverts de...
Ah oui, du lierre. OK, Ivy. Ben oui, Poison Ivy. OK, je comprends. Ça me revient.
Oui, oui. Okay, c'est pour bon. Ça, en fait. Mais voilà, petite mesure. C'est une petite capsule informative. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. C'est à cause de la plante.
Merci de refaire ma culture.
Voilà. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on se pose la question pourquoi on appelle ça Ivy League. Bon, voilà.
C'est vrai, on vient qu'à savoir rom-com.
Ivory League, non.
Non.
Fait que la madame, elle s'occupe de reviser bon, les processus, les candidats, puis ils sont un comité, là, pas tout seul, définitivement. Puis là, elle rencontre un gars, puis il y a une question d'admission d'un jeune. Puis c'est pas ce genre de film que c'est vraiment le fun de décrire le scénario.
Mais l'intéressant, c'est est-ce que c'est le fun à voir?
Mais c'est ça la question. Est-ce que c'est le fun à voir? Moi, j'ai passé un bon moment. C'est pas le film de l'année, définitivement. C'est pas un film que je vais me souvenir non plus. Mais ça m'a fait décrocher pendant 1h45 que ça durait. Et je pense qu'on a peut-être un petit extrait
d'abord-annonce. Oui,
on va aller écouter ça.
Un bon agent des admissions doit arriver à gérer la panique nationale de la période des inscriptions sans paniquer lui-même. Vous ne vous êtes jamais mis au défi académiquement.
Je vaux $1 milliard.
Il doit aussi pouvoir gérer la frustration de tous les parents qui réalisent qu'il n'y a pas assez de place dans les universités pour tous les descendants de bonnes familles engraissés à la nourriture bio. Monsieur, éloignez-vous de la voiture.
Vous aimez les gâteaux?
Je déteste ça. C'est non! Bien sûr, tout le monde croit qu'on est des sadiques, qu'on adore dire non.
Championne nationale de gymnastique.
Vous savez, mon père est cubain. Handicapé aussi.
Mais si on fait ce travail, c'est pour une seule raison. Dire oui?
Ici John Pressman. J'appelle pour vous inviter à visiter notre campus.
Envoyez-moi un courriel, je vous rappellerai.
Hé, hey, pas si fort. T'aimerais qu'on te tire les mamelons comme ça, toi?
Qu'est-ce que vous avez dit?
Ouais, c'est un... okay. Ça m'a fait bien rire, ça.
Oui, c'est...
Oui, ben, c'est... Il est en train de... Parce que vous savez, lui, il est directeur d'école dans une école un peu alternative où ils ont des vaches, ils apprennent à traire le lait, ils apprennent à...
Ah, bon. Fallait avoir le visuel, j'imagine.
Ouais. Oui, ouais, définitivement, ouais. Sinon ça fait un peu bizarre.
Non, c'est ça, ça sentait pas le score, là.
Non, ça le sent toujours pas au visuel.
La traduction, c'est, ça sent rarement le score, c'est mon avis, mais bon.
Oui. Mais ça s'écoute bien, un petit film en ces temps de coronavirus et qu'on n'a pas envie d'écouter des films de pandémie.
Mm-hmm.
Moi, j'avais juste envie d'écouter un petit film tranquille pour me changer un peu les idées, puis pas réfléchir non plus beaucoup. J'avais pas envie d'être prise dans un film qui allait m'amener dans d'autres endroits.
Ouais.
Tu sais, j'avais juste un petit film de détente, là, juste film de... Voilà, petit film de
c'est
détente.
C'est quand même drôle parce que c'est un film d'école et c'est un film pour décrocher.
Oh! Ouais.
C'est fort.
Je pense que oui, je sais. Ah, ouais.
Tu devrais garder ça pour le prochain Kino Show, François.
Oh. Et
d'ailleurs, il n'y a pas de date, j'imagine,
ben,
compte
en fait,
tenu de la situation.
Ben, c'était censé être en mai. On regarde la situation évoluer là, pour voir si ça va être encore là. Mais on va voir.
À suivre.
Tout ça est à suivre.
Merci beaucoup, Mélina, pour ta critique. Merci, François. Merci à tous nos auditeurs qui ont été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, on va cesser la production de Cinébrunch pendant un temps indéterminé, le temps que les choses se placent au niveau mondial, disons ça comme ça,
oui.
Et cinématographique aussi. Donc, je vous propose de peut-être nous contacter sur Facebook si vous voulez jaser. Sinon, on va peut-être publier du contenu par le biais de Facebook ou de notre balado.
Sinon, tout est possible. Pour écouter les anciennes émissions.
C'est ça. Toutes les émissions jusqu'à aujourd'hui, on a combien, 110, 115 émissions disponibles en écoute. Ça vous tente d'aller sur notre site web cinébrunch.com, vous cherchez...
Rafale,
ouais, ça vous tente, si vous voulez. Si quelqu'un réussit à toutes les écouter, là, je vais être bien fier. Mais c'est pas toujours intéressant, nécessairement, de revenir en arrière pour des films qui sont plus à l'affiche, tout ça, mais il y a peut-être des sujets,
si
des conversations
sur Netflix, de fun. Oui, c'est vrai. Il y a des vraies conversations aussi. Donc,
ça fait aussi longtemps, ça revient.
Ben oui, c'est ça, ça revient, c'est rendu dans le vintage.
C'est ça.
Là.
C'est ça. Ben, merci à tous d'avoir été avec nous. On se revoit éventuellement pour un autre Cinébrunch. Sinon, ben, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.